de Noël. Truman Capote. Imaginez un matin de fin novembre. Un matin annonciateur d'hiver, voici plus de 20 ans. Représentez-vous la cuisine d'une vaste et vieille demeure dans un bourg de campagne. La pièce maîtresse en est un grand fourneau noir, flanqué d'une vaste table ronde et d'une cheminée avec, devant, deux fauteuils à bascule. Aujourd'hui, justement, la cheminée a lancé son premier grondement hivernal. Une femme, aux cheveux blancs coupés courts, se tient à la fenêtre. Elle porte des chaussures de tennis et un tricot gris informe sur une robe d'été en calicot. Elle est petite et vive comme une poule naine, mais à cause d'une longue maladie de jeunesse, ses épaules sont cruellement voûtées. Son visage, remarquable, n'est pas sans rappeler celui de Lincoln, anguleux comme le sien, hâlé par le soleil et le vent, mais délicat aussi, avec une ossature fine, des yeux timides et ambrés comme du chéri. « Ah, mais ça !» s'exclame-t-elle en embuant la vitre de son souffle. « C'est un temps à faire des cakes !» Celui à qui elle s'adresse, c'est moi. J'ai 7 ans, elle en a 60 et quelques. Nous sommes cousins, très éloignés, et avons toujours habité ensemble, enfin, aussi loin que je me souvienne. Il y a d'autres personnes dans la maison, des gens de la famille, mais bien qu'ils aient autorité sur nous et nous fassent souvent pleurer, en fin de compte, nous ne remarquons guère leur présence. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Elle m'appelle Buddy, en mémoire d'un garçon qui fut autrefois son meilleur ami. Ce Buddy-là est mort dans les années 1880, quand elle n'était qu'une enfant. Une enfant qu'elle est restée. « Je l'ai sentie avant de sortir du lit », m'explique-t-elle en se détournant de la fenêtre, les yeux pétillants de détermination. La cloche du tribunal avait un son si froid et si clair, et pas un chant d'oiseau. Ils sont partis vers les pays chauds. Tu parles. Hey, Buddy, arrête de t'empiffrer de gâteaux et va chercher le landau. Aide-moi à trouver mon chapeau. On a 30 cakes à préparer. C'est toujours la même chose. Un beau matin de novembre, comme pour inaugurer officiellement la période de Noël qui réveille son imagination et attise la flamme de son cœur, mon ami m'annonce « C'est un temps à faire des cakes. Sors le landau. Aide-moi à trouver mon chapeau. » Le chapeau a réapparu. Un chapeau de paille à large bord, orné de roses en velours fané par le grand air. Elle le tient d'une aïeule plus sensible qu'elle à la mode. Ensemble, nous poussons notre landau, une voiture d'enfant hors d'usage, jusqu'au jardin, avant d'atteindre un bosquet de pacaniers. Ce landau, c'est le mien. Disons qu'on l'a acheté pour moi à ma naissance. L'osier s'effiloche et les roues flageolent comme des jambes d'ivrogne. Mais c'est un allié fidèle. Au printemps, nous l'emmenons dans les bois et le remplissons de fleurs, d'herbes aromatiques et de fougères sauvages pour garnir les pots de la véranda. L'été, on y entasse tout l'attirail du pique-nique et les gaules en canne à sucre et on le descend au bord d'un ruisseau. Il a aussi ses emplois hivernaux, comme chariot pour transporter les bûches de la cour à la cuisine et comme lit douillet pour Queenie, notre increvable petit ratier orange et blanc qui a survécu à la maladie de Carré et à deux morsures de crotal. En ce moment même, Queenie trotte à côté du landau. 3 heures plus tard, nous sommes de retour dans la cuisine à décortiquer une pleine cargaison de pécans tombés de l'arbre. On s'est cassé le dos à les ramasser. Pas facile de les dénicher. Le plus gros ayant été gaulé et vendu par d'autres que nous, les propriétaires du verger, caché sous les feuilles parmi l'herbe gelée et ses leurres. Crac-à-lac ! Un craquement joyeux, des éclats de tonnerre en miniature s'élèvent à mesure que les coquilles cèdent et que l'amas doré de matière ivoire douce et huileuse grossit dans la coupe de verre opale. Queenie demande à y goûter et de temps à autre, mon ami lui en glisse un petit morceau tout en insistant bien sur le fait que nous nous en privons. Il ne faut pas, Buddy. Si on commence, on ne s'arrêtera pas. Et il y en a déjà tout juste assez. On a 30 gâteaux à faire. La pénombre envahit la cuisine. Le crépuscule transforme la fenêtre en miroir. Nos reflets se mêlent à la lune montante tandis que nous nous activons près de l'âtre, à la lueur des flammes. Et quand enfin la lune est à son zénith, nous jetons la dernière coquille dans le feu et, avec un même soupir, la regardons s'enflammer. Le landau est vide, la coupe, elle, est garnie à ras-bord. Nous dînons biscuits froids, bacon, confiture de mûre, en discutant du lendemain. Demain commence la phase du travail que je préfère, les courses. Cerises et cédra, gingembre, vanille et ananas d'Hawaï en conserve, écorce confite, raisin sec, noix, whisky et, j'oubliais, un monceau de farine et de beurre. Et des œufs, des épices et des aromates à foison. C'est un poney qu'il nous faudrait pour ramener le landau à la maison. Mais avant de penser aux achats, se pose la question de l'argent. Nous n'en avons ni l'un ni l'autre, si ce n'est de misérables oboles lâchés à l'occasion par des gens de la maison. Une pièce de 10 cents passe alors pour une forte somme. Ou ce que nous tirons nous-mêmes de nos activités diverses, brocantes de charité, vente de seaux de mûres cueillis à la main, de confitures, gelées de pommes et conserves de pêche maison, ou encore de couronnes de fleurs pour les enterrements et les mariages. Une fois, nous avons gagné le 79e prix, $5, à un concours national sur le football. On ne connaît rien au football, mais on participe à tous les concours qui se présentent. Pour le moment, tous nos espoirs reposent sur le gros lot de $50 000 offert à qui trouvera une nouvelle marque de café. Nous avons proposé Eden. Et après bien des hésitations, car mon ami pensait que c'était peut-être blasphématoire, le slogan « À Eden, on dit Amen ». À vrai dire, notre seule initiative vraiment rentable fut le musée des curiosités et des phénomènes que nous avions monté dans une remise de l'arrière-cour voici 2 étés. La curiosité, c'était une lanterne magique à double lentille projetant des vues de Washington et de New York et qu'une voisine qui s'était rendue là-bas nous avait prêté. Elle avait d'ailleurs été furieuse en découvrant la raison de cet emprunt. Quant au phénomène, c'était un poussin à 3 pattes couvé par une de nos poules. Tout le quartier avait voulu voir à quoi il ressemblait. En prenant 5 cents pour les adultes et 2 pour les enfants, nous avions pu récolter la coquette somme de $20 avant que le musée ne ferme pour cause de décès de sa principale attraction. Bon an, mal an, nous arrivons quand même à nous constituer une cagnotte de Noël, la caisse des cakes. Ce pécule, nous le conservons dans un vieux porte-monnaie en perles caché sous une lame disjointe du plancher, elle-même située sous un pot de chambre, lui-même placé sous le lit de mon ami. Le porte-monnaie quitte rarement ce lieu sûr, sauf pour procéder à un dépôt ou, comme chaque samedi, à un retrait. Car le samedi, j'ai droit à 10 cents pour aller au cinéma. Elle-même n'y est jamais allée et n'en a pas non plus l'intention. Je préfère t'entendre me raconter l'histoire, Buddy. Comme ça, je me l'imagine mieux. En plus, une personne de mon âge ne doit pas s'abîmer les yeux. Quand le Seigneur viendra, il s'agira d'y voir clair. Outre qu'elle n'a jamais vu de film, Elle n'a jamais mangé au restaurant, ne s'est jamais éloignée de chez elle de plus de 10 km, n'a jamais reçu ni envoyé de télégramme, jamais rien lu d'autre que des illustrés et la Bible, utilisé de cosmétiques, dit de gros mots, souhaité du mal à quelqu'un, menti sciemment, laissé un chien affamé le rester. Voici en revanche quelques-unes des choses qu'elle a faites et fait encore. Auxir, avec une binette, le plus gros crotal jamais vu dans le comté, 16 sonnettes, prisé en cachette, apprivoiser des colibris, essayer pour voir, jusqu'à ce qu'il se pose sur son doigt, raconter des histoires de fantômes, nous croyons tous les deux aux fantômes, qui vous donnent des frissons même en plein mois de juillet, parler toute seule, partir se promener sous la pluie, cultiver les plus beaux japonicas de la commune, connaître la recette de toutes les médications indiennes d'antan, y compris un remède miracle contre les verrues. Le dîner terminé, nous nous retirons dans la chambre située à l'autre bout de la maison, où mon amie dort dans un lit de fer peint en rose, sa couleur préférée, et recouvert d'un couvre-pied en patchwork. Sans un bruit, grisé par les délices de la conspiration, nous extirpons le porte-monnaie en perles de sa cachette et en répandons le contenu sur le dessus de lit. Des billets de 1 dollar roulé serré, verts comme des bourgeons de mai, de sombres pièces de 50 cents, assez lourdes pour tenir closes les paupières d'un mort, d'adorables pièces de 10 cents, les plus vives, les seules à vraiment teinter. Des 5 et des 25, lisses et usées comme des galets de rivière, mais surtout un affreux tas de pennies à l'odeur âcre. L'été dernier, des pensionnaires de la maison s'étaient engagés à nous verser un penny toutes les 25 mouches tuées. Oh, ce carnage en août, le nombre de mouches qui ont pris le chemin du paradis. On n'était pas fiers de nous pour autant. En comptant les pennies, je nous revois en train de recenser nos mouches. On n'a ni l'un ni l'autre la tête aux chiffres. On compte lentement, on perd le fil, on recommence. D'après les calculs de mon ami, nous avons 12,73 $. D'après les miens, 13 $ tout rond. J'espère bien que tu t'es trompé, buddy. On ne rigole pas avec le 13. Les cakes vont retomber ou envoyer quelqu'un au cimetière. Tiens, pour rien au monde, je me lèverai le 13 du mois. Et c'est vrai, elle passe toujours la journée du 13 au lit. Par acquis de conscience, nous retirons donc un penny et le jetons par la fenêtre. De tous les ingrédients qui entrent dans la confection de nos cakes, le whisky est le plus cher, mais aussi le plus difficile à trouver. Dans notre état, il est interdit à la vente. Mais chacun sait que l'on peut en acheter une bouteille à Mr. Aha Jones. Et le lendemain, une fois expédiées les courses plus ordinaires, nous nous mettons en route vers l'établissement de Mr. Aha. Un café dancing au bord de la rivière, un lieu de perdition, selon la rumeur, où l'on sert aussi des fritures. Nous y sommes déjà allés, et pour le même motif. Mais les années précédentes, nous avions eu affaire à la femme de Mr. Aha, une indienne à la peau couleur de teinture d'iode, aux cheveux décolorés et d'un naturel perpétuellement lasse. En fait, son mari, on ne l'a jamais vu. On sait seulement qu'il est indien lui aussi. Un géant aux joues tailladées par le rasoir. On l'appelle Aha à cause de son air maussade. C'est un type qui ne rit jamais. Comme nous approchons de son café, une grande cabane de rondins festonnée au dedans comme au dehors de guirlandes d'ampoules nues et bariolées, bâties sur la berge boueuse de la rivière dans l'ombre des arbres, là où la mousse pend en brume grise à travers les branches, nous ralentissons le pas. Même Queenie cesse de folâtrer et reste collée à nous. Il y a déjà eu des morts chez Aha, coupés en morceaux, la tête fracassée. Une affaire va être jugée au tribunal le mois prochain. Bien entendu, ces faits divers ont lieu la nuit, quand les lumières colorées dessinent d'étranges motifs et que le phono lance ses complaintes. Dans la journée, le café, désert, ne paie pas de mine. je frappe à la porte. Queenie aboie. Mon ami lance. Mister AA, vous êtes là? Y a quelqu'un? Des pas. La porte s'ouvre. Notre sang se fige. C'est Mister AA Jones en personne. En effet, c'est un colosse. En effet, il est plein de cicatrices. En effet, il ne sourit pas. Pas du tout. Il nous lance un regard noir par les fentes obliques de ses yeux sataniques et s'enquiert avec force.
« Qu'est-ce que vous lui voulez ? Ah 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 !»
Sur le moment, nous sommes trop pétrifiés pour lui répondre. Puis, retrouvant à moitié sa voix, mon ami parvient tout juste à murmurer.
« S'il vous plaît, Mister Ah ah, nous voudrions un litre de votre meilleur whisky. »
Ses yeux s'inclinent un peu plus. Qui l'eût cru? Ah ah, sourit, rigole même.
C'est lequel des deux qui picole?
C'est pour faire des cakes, Mister Ah ah, des gâteaux.
Il retrouve son sérieux, fronce les sourcils.
C'est pas bien de gaspiller du bon whisky comme ça.
Il se retire pourtant dans l'ombre du café et, après quelques secondes, reparaît avec à la main une bouteille sans étiquette d'un liquide jaune marguerite. Il la fait miroiter dans la lumière du soleil et annonce
« 2 $ ».
Nous le payons en toute petite monnaie. Tout à coup, alors qu'il fait sauter les pièces dans sa main comme une poignée de dés, son visage s'adoucit. « Je vais vous dire une chose », propose-t-il en reversant l'argent dans notre bourse en perles. « Envoyez-moi en échange un de vos cakes et on n'en parle plus. » Sur le chemin du retour, mon ami fait remarquer. « Eh bien, voilà ce que j'appelle un homme charmant. On doublera la dose de raisin dans le sien. » Gavé de charbon et de bûches, le fourneau noir rougeoie comme une citrouille éclairée de l'intérieur. Les fouets à œufs s'activent, les cuillères virevoltent dans les jattes de beurre et de sucre. La vanille adoucit l'air, le gingembre l'épice. Titillant les narines, les parfums mêlés emplissent la cuisine, envahissent la maison et, poussés par les volutes de la cheminée, s'échappent au dehors. En 4 jours, notre œuvre est accomplie. 31 cakes imbibés de whisky se prélassent sur les rebords des fenêtres et les étagères. Pour qui sont-ils? Pour des amis, pas forcément du quartier. D'ailleurs, la plupart iront à des personnes que nous n'avons rencontrées peut-être qu'une fois, voire jamais. À des gens qui ont frappé notre imagination, comme le président Roosevelt, comme le révérend J.C. Lucet et Madame, missionnaire baptiste à Bornéo venu donner des conférences l'hiver dernier, ou le petit Rémouleur qui vient en ville de Foilan, ou Abner Packer, le chauffeur du car de mobile avec qui nous échangeons des saluts tous les jours quand il passe dans une trompe de poussière sur les coups de 6 heures, ou encore les Winston. Un jeune couple de Californie dont la voiture était tombée en panne un après-midi devant la maison et avec qui nous avions passé une heure agréable à bavarder sous la galerie. Le jeune Mr. Winston nous avait pris en photo, la seule qu'on ait jamais faite de nous. Est-ce parce que mon ami est timide avec tout le monde sauf les étrangers? Que ces mêmes étrangers, de très vagues connaissances, nous semblent être nos vrais amis? Je crois que oui. De même, les albums où nous conservons les mots de remerciement à l'entête de la Maison Blanche, les courriers épisodiques de Californie et de Bornéo et les cartes postales à dessous du Rémouleur nous donnent-ils le sentiment d'être reliés à des mondes pleins d'admiration, par-delà notre cuisine et sa vue sur un ciel barré par l'horizon. À présent, une branche de figuier dénudée par décembre griffe la fenêtre. La cuisine est vide, les gâteaux sont partis. Nous avons porté le dernier hier au bureau de poste où le prix des timbres a eu raison de notre bourse. Nous voilà à sec, j'ai le moral en berne,
mais mon ami tient à fêter ça avec les deux doigts de whisky restant dans la bouteille de AA. Queenie a droit à une cuillerée dans un bol de café. Elle aime le café fort et parfumé à la chicorée. Nous nous partageons le reste dans des coupes à dessert.